La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Père, accorde-nous maintenant le don du Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nous, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelles. Amen. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le. Bénissez son nom, car le Seigneur est bon et sa fidélité est pour toujours. Nous chantons ce psaume 100, les premières, les deuxièmes et troisièmes strophes. Nous prenons place pour écouter la volonté de Dieu. Telle qu'elle est rappelée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tous les autres commandements se résument dans cette parole, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de tort au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Recueillons-nous maintenant pour demander à Dieu sa grâce. Mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, lave-moi tout entier de ma faute. Elle est toujours devant moi, car c'est contre toi seul que j'ai péché. Ce qui à tes yeux est mal, je l'ai fait. Mais ce que tu veux au fond de moi, c'est la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Détourne ta face de mes fautes. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face et ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Ouvre mes lèvres et alors ma bouche annoncera ta louange. Amen. Le Seigneur est tendresse, il est patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, ne garde pas éternellement rancune, ne nous punit pas comme nous l'aurions mérité, ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel, sa bonté dure toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons recevoir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur cette assurance du pardon et qu'il nous donne alors de marcher en nouveauté de vie vers son royaume. Levons-nous pour rendre grâce à Dieu.
Tout ce que tu es, et combien t'es enfant, tout ce que tu fais, et combien t'es offert, sont dignes de louange.
Et maintenant, c'est avec les premiers témoins de Jésus que nous voulons confesser notre foi. En disant avec Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Frères et sœurs, une famille de la paroisse nous a demandé de recevoir au baptême ce matin ses deux enfants. Nous les accueillons avec gratitude, avec joie, avec espérance. Nous leur demandons maintenant, parents, parrains, marraines, de s'approcher. C'est Patrice, Théodore, et Dorine Missé Epoundé, qui vont maintenant nous entourer et s'approcher. Nous écoutons maintenant comment le Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Église appelle tous les hommes au baptême. Pour votre enfant, ce baptême signifie que Dieu l'aime d'un amour éternel et qu'il lui offre d'avance, avec le pardon en Jésus-Christ, une vie nouvelle par son Esprit. Au premier jour de l'Église, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau pour bien marquer qu'il était noyé avec tout son passé, avec tous ses péchés, pour renaître à une vie nouvelle en communion avec son Sauveur mort et ressuscité.
L'eau aujourd'hui dans laquelle il disparaissait n'est plus que représentée par quelques gouttes d'eau versées sur le front, mais le sens reste le même. Ainsi, le baptême annonce ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ et ce qu'il veut aujourd'hui, maintenant, accomplir pour vos enfants par son esprit. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. L'eau du baptême est le signe de l'amour qui rend pur, de cette nouvelle naissance par laquelle tout homme, toute femme doit passer pour devenir enfant de Dieu. Alors vous maintenant, parents, parrains, marraines, vous devez répondre à la bonté de Dieu qui reçoit vos enfants dans son alliance. En nous demandant le baptême de ces enfants, vous avez, dans la mesure de votre foi, exprimé le désir qu'ils reçoivent le signe de la grâce de Dieu. Voulez-vous maintenant confirmer ce désir devant l'Église en répondant oui ? Vous êtes donc ces répondants. Du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui t'accueille aujourd'hui pour son enfant te garde pour la vie présente et pour la vie éternelle. Va en paix. Erin Joy, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui t'adopte aujourd'hui pour son enfant te garde pour la vie présente et pour la vie éternelle. Va en paix. Petits enfants, pour vous, Jésus est venu dans le monde, il a lutté, il a souffert, il a traversé les ténèbres du calvaire. Pour vous, il a dit « tout est accompli ». Pour vous, il a triomphé de la mort, pour vous, vous n'en savez encore rien, mais ainsi est confirmée la parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce que le premier, il nous a aimés.
Seigneur, mon Père, Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Amen.
Dès maintenant, vos enfants sont chez eux dans la communauté chrétienne. Elle est leur famille spirituelle et aucune contrainte ne pourrait les y retenir. Et si jamais ils venaient à s'en séparer, leur place y restera toujours marquée. Vous le leur direz, car vous êtes les témoins de leur baptême. Nous entendrons le témoignage ou la lecture d'un passage de l'Écriture de la part de la famille de ses enfants.
Bonjour à tous. Erin Gurry, en ce jour de ton baptême, les parents spirituels que nous sommes, prenons l'engagement de te faire suivre le chemin de Dieu, aller vers Dieu. Cela fait exactement 22 mois que tu enchantes nos cœurs. Tu es la toute première à porter ton choix sur nous comme marraine et parraine. À travers ce lien d'affection si chaleureux que nous avons tissé spontanément dès le sein de ta maman et qui manifestement s'est dévoilé au grand jour après ta naissance. À travers toi, je fais réellement l'expérience du véritable amour. Peut-être innocent, naïf, mais sans calcul. C'est avec une grande émotion que Rose et moi acceptons cette récompense en même temps qu'elle est une lourde mais exaltante responsabilité. Nos portes et nos cœurs te seront toujours ouverts. Avec tes parents, nous demandons à Dieu de t'accueillir parmi ses enfants et de t'entourer de son amour. Lui qui nous recommande d'être humbles comme les enfants au regard des Saintes Écritures qui disent « Laissez les petits enfants venir à moi car le royaume des cieux est à eux. » Nous ne te garantissons pas d'être parfaits, mais nous te promettons d'être toujours là pour toi, pour tes joies et pour tes peines, pour t'écouter sans te juger et t'aimer sans préjugés. Merci Dorine. Merci Patrice. Le cadeau que vous nous faites aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui à nos modestes personnes, a une si grande valeur à nos yeux que nous ne savons pas comment vous remercier pour avoir entériné le choix de Erin Gurry. Tendrement, Erin Gurry, Rose et Gaston. Merci à tous.
Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je dédie ce passage à toi et Marvin Lloyd. car le Seigneur sera toujours avec toi, quoi que tu fasses ou que tu ailles. Aujourd'hui, je voulais tout d'abord dire que c'est une grande joie dans la maison du Seigneur, car deux enfants sont rentrés dans la grande famille chrétienne. Ensuite, je suis très honorée d'être choisie par Dorine et Patrice pour être ta marraine. Je serai à tes côtés, Marvin Lloyd. Je t'accompagnerai dans ta vie religieuse, comme partout ailleurs. Bien-aimé, merci et très bon dimanche dans le Seigneur.
Et maintenant, écoutez, parents, parrains, marraines, les engagements que l'Église attend de vous. Vous promettez de faire connaître à ses enfants la vérité chrétienne contenue dans l'Écriture, pour qu'ils puissent un jour comprendre la signification de leur baptême, y fonder leur assurance et devenir des disciples de Jésus-Christ. Vous les confierez à l'Église qui les reçoit aujourd'hui, afin qu'elle les prépare avec vous à faire sienne la confession de foi de l'Église universelle, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous promettez?
Oui.
Que Dieu vous donne sa force pour tenir votre promesse. Et maintenant, frères et sœurs, accueillons ces enfants comme de nouveaux membres de l'Église, de nouveaux membres du corps du Christ, appelés à la joie éternelle. Levons-nous.
Nous reprenons place
Et nous écoutons maintenant quelques passages des Écritures. Sur lesquels ce matin portera la prédication. C'est d'abord dans l'évangile de Matthieu que nous rappelons au chapitre 3 l'œuvre du baptiseur. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir, produisez donc un fruit digne du changement radical. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus grand, plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main. Il nettoiera son aire, il recueillera son blé dans la grange et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et puis nous écoutons maintenant, au chapitre 18 de ce même évangile de Matthieu, cet épisode à partir du premier verset. À ce moment, les disciples vinrent demander à Jésus « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Amen, je vous le dis. Si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi-même qui l'accueille. » Nous écoutons encore ce bref passage dans l'épître de Jean, de cet entretien de Jésus avec un nommé Nicodème. Nicodème dit à Jésus, « Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. » Jésus répondit, « Je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Et puis encore ce passage que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, que dirons-nous? Nous sommes morts pour le péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que vous tous, Nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et c'est maintenant le cantique 204 que nous chanterons la première et la deuxième strophe. Nous prions. Seigneur, plonge-nous maintenant dans ces eaux profondes qu'est ta parole. Qu'elle nous régénère. Nous lave de nos passés inutiles, de nos pensées vaines et mette un terme à nos inquiétudes, en nous donnant de nous vider de nous-mêmes, de tout ce qui nous encombre, pour que tu puisses former en nous une foi qui ouvre des routes inédites, qui inspire des paroles et des actes nouveaux et donne sens à chaque instant de notre vie. Frères et sœurs, ce ne sont que quelques gouttes d'eau sur les fronts de ces deux enfants qui a fait ressurgir ce matin le geste ancestral de toutes les ablutions, de tous les rites de purification que les hommes se sont toujours transmis pour se rapprocher, pour se réconcilier avec ce Dieu improbable, parfois menaçant, lointain. C'était cette eau, cette eau où peut naître toute vie, parce qu'elle trouve son milieu, parce que deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène ont permis l'inexplicable, l'indicible. Alors cette eau ne pouvait que rapprocher du divin par ce retour aux origines. Alors dans ce concours un peu vagabond de toutes les religions du Moyen-Orient, Israël aussi a fait de cette eau une propre expression de sa foi. Mais paraît Jean, paraît ce cousin de Jésus, qui va rester dans les mémoires le baptiseur, et qui lui innove, qui fait craquer les rituels en plongeant des hommes, sans doute avec des femmes, dans les eaux tourbillonnantes du Jourdain, et qui, plus fort encore, voyant venir à lui Jésus, n'hésite pas à se saborder avec son baptême d'eau, annonçant ces temps nouveaux, où ce ne sera alors plus avec de l'eau, mais avec du feu, que l'homme sera baptisé. Et pourtant, c'est ce baptême d'eau auquel Jésus a voulu lui-même se soumettre, qui restera le geste inaugural pour toutes les générations chrétiennes. Alors l'occasion nous est donnée ce matin de considérer ces passages des évangiles que nous venons de relire, d'abord avec Jean le baptiseur et ensuite avec Jésus. Avec Jean. Ainsi s'exprime-t-il, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. La traduction qui a été faite de ce passage, ce n'est pas cette traduction-là. Celle qui a bercé nos oreilles dans notre enfance, sans doute peut-être encore aujourd'hui, et pas seulement celle de ma génération, mais celle d'autres générations ultérieures, nous a habitués à entendre les mots de repentance et de conversion pour ce baptême. Ce qui donne à penser que l'on quitte par décision personnelle, pour un adulte, puisque ce ne peut être que le cas dans le temps du Nouveau Testament, pour un adulte, de quitter un état d'incroyance pour adhérer à la foi chrétienne et intégrer alors la communauté de foi en Jésus-Christ. Cette conversion d'ordre spirituel au départ exige bien entendu de quitter une vie antérieure dite de péché pour entrer dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et en tout cela, il n'y a rien de faux. Le discours est sans faille. Ainsi, l'alliance de Dieu avec les hommes se poursuit. Et on peut passer d'un testament à l'autre. Mais n'a-t-on pas oublié que cet autre, c'est un nouveau? N'a-t-on pas, dans cette traduction, émoussé, adouci le vocabulaire que volontairement Jean employait? Et qui est ce retournement que le baptême suppose? Ce volte-face qu'il constitue, et ce déplacement sans retour qui fait qu'on ne se retrouvera plus jamais au même endroit qu'au départ. Alors la nouvelle traduction de la Bible Second, cette vénérable traduction protestante qui était entre toutes nos mains et qui l'est toujours, dont on connaît même souvent par cœur les tournures et les fins de versets, dans sa nouvelle version, elle a fait peau neuve. Bénéficiant du travail incessant de tous les chercheurs, de tous les linguistes et autres, et elle n'a pas hésité, alors, à traduire directement ce mot en grec de « métanoïa » par « retournement radical » et non plus par « conversion ». Et même si c'est le même sens, étymologiquement parlant, cette traduction ancienne appartient à un vocabulaire pieux. Comme il s'agit encore et toujours d'un déplacement, il faut retourner à l'opposé. Et alors, l'accent va être mis sur le fait d'avoir quitté sa place, de s'être converti au sens fort et au sens radical, de s'être retourné, d'avoir retourné toute sa personne, en sorte qu'il y a un avant et qu'il y a un après, et que c'est sans retour entre cette autrefois et cet aujourd'hui. C'est bien d'une repentance, mais dans sa radicalité, et pas seulement un repentir moral, dans le sens où il peut encore avoir quelque chose de comptable pour établir de bons rapports avec Dieu. Mais le baptême est plus encore. Il est une tension face à un choix qui ne peut plus être remis en jeu. Je ne peux plus dissocier mes comportements isolés de cette décision radicale. On pourrait dire que c'est un baptême existentiel. Alors, cela explique que Jean, qui connaissait son public, l'invectivait en le traitant de tous les noms, et en particulier de vipère. Peut-être que par bienséance, l'Écriture n'a pas retenu les autres. En vue d'une repentance qui ne devait être autre qu'un retournement radical. Mais ce baptiseur va quitter la scène publique. Alors qu'en sera-t-il de celui dont il prédit qu'il vient non plus avec de l'eau, mais avec du feu pour détruire? Alors voici donc maintenant Jésus. Va-t-il répondre à ce portrait un peu foudroyant que Jean a fait de lui? Qu'en va-t-il être de cette violence d'un changement radical? Alors, c'est à partir d'une question qui apparaît bien entendu totalement déplacée de la part d'un de ses disciples, qui dans le royaume de Dieu sera le plus grand, sera le premier, à qui on décernera le prix et qui montera sur le podium. Jésus ne relève pas tout de suite la question comme on l'attendait. Il ne rembarre, pour parler vulgairement, pas cette indiscrétion. Il ne rabroue pas son auteur, parce qu'il a bien mieux à faire. Et au lieu de le remettre à sa place, il va exploiter cette idée de grandeur, vue comme une préséance d'honneur dans l'esprit des siens, mais en l'inversant, en le retournant, en lui faisant faire cette conversion et ce demi-tour. La question, eh bien, posons-la, semble dire Jésus. Elle va servir à comprendre. Et au lieu de leur dire qu'ils sont égaux, ce qu'on pourrait attendre, mais l'égalité c'est parfait pour les républiques, mais c'est parfaitement insuffisant pour Jésus. Il a mieux à dire que de parler d'égalité et de cette banale évidence. Alors le plus grand, eh bien, c'est celui qui est sur mes genoux. Il a fait appel à ses disciples pour lui amener un de ses nombreux enfants qui sont dans les bras de leur mère, au milieu de cette foule qui s'est assemblée autour de lui. Alors arrive le moment attendu où Jésus prend la parole. Et il reprend ce changement radical du précurseur. Il revient, il ressort, non pas avec la métanoïa, mais avec ce verbe strepso en grec, qui signifie lui aussi un changement, une révolution. Et le demi-tour revient. Mais les invectives en moins, elles ont disparu. Elles ont disparu comme l'eau et comme le feu. C'est l'essentiel que Jésus va mettre en place. Alors, à l'aide de cet enfant, qui devient une parabole vivante, il nous fait sortir de notre histoire, comme d'une préhistoire, pour nous placer devant la nouveauté qui nous attend et qui est radical. Ce que Nicodème n'avait pas compris, c'est une naissance qui ne dépend plus de nous, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, qui n'est pas l'œuvre de notre chair, mais l'œuvre du Christ en nous. À quoi donc servirai tous ces enseignements, tous ces sermons sur la montagne, toutes ces paroles et tous ces actes de Jésus pour redonner la vie pendant 3 années intenses de ministère. Si le sens n'en était pas de mettre en nous ce qu'il n'y avait pas avant et de faire de nous ce que nous n'étions pas avant, mais ce que nous devenons. Comme le dit d'une autre manière l'apôtre Paul, ce que nous devenons, nous ne le savons pas encore. Ce que nous devenons, c'est le Christ caché en nous. C'est ce que nous ignorons. C'est ce que nous avons, c'est que nous sommes morts avec lui sur la croix. Et qu'alors, nous sommes vivants avec lui. C'est tout un travail, c'est tout un tissage qui se fait en nous par le Christ. C'est un devenir et c'est une construction. Alors, l'enfant qui est là va servir de signe. Et pas du tout, détrompons-nous, parce qu'il est innocent, parce qu'il n'a rien fait de mal et que moralement il est pur, ni non plus parce qu'il est sans défense, doux, peut-être peureux, peut-être qu'il cherche avec ses yeux sa mère pour le rassurer. En somme, parce qu'il est dans le sens non négatif du mot infantile. Pas du tout. C'est seulement parce qu'il commence sa vie qu'il n'y a encore rien d'écrit sur son avenir, parce que sa route est libre, parce que la page est blanche et que ce qui l'attend peut être illimité par le don de Dieu. Car c'est une nouvelle hérédité que nous offre Jésus, que seul Dieu peut nous donner à travers lui. Ce n'est pas une survie. Un encore toujours plus, c'est une autre vie qui, elle, est neuve. Alors, Nicodème, il ne s'agit pas d'un recommencement, mais d'un commencement. On ne refera pas un nouveau cycle, on va en sortir. Ce n'est pas une survie non plus, un prolongement, une recherche éperdue d'augmentation de l'humain pour frôler les limites. C'est un départ de vie, celui que seul Dieu donne et que rien n'arrête. Alors, à quoi pourrait encore servir la violence johannique dans la bouche de Jésus? Il dit seulement « Ta foi t'a sauvé ». En toi, Dieu dépose un germe nouveau qui peut se développer en vie éternelle. Et alors on fait retour à ce changement radical. Mais celui-là ne dépend pas d'une menace, mais d'une grâce. Il n'est plus suspendu à des actes justes, mais à la foi. À la question posée par les disciples, qui donc est le plus grand ? La réponse tombe de soi-même. C'est celui qui n'a pas encore eu l'occasion de tomber parce qu'il ne sait pas encore marcher comme cet enfant. Y a-t-il parmi vous tous ces gens qui ne savent pas marcher ? Dit Jésus implicitement. Tous ces gens qui les seuls peuvent être aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut rentrer? Tous ces premiers que sont ces estropiés, ces boiteux, ces aveugles, ces pauvres, ces gens qui pleurent, ces persécutés pour la justice, et pourquoi pas toute cette humanité qui attend la délivrance. Alors, que peut-il encore rester à faire? À faire peut-être pas grand-chose, puisque tout a été accompli par cet amour démesuré de Dieu dans le Christ. Ce qu'il y a à faire, c'est peut-être déjà de consentir à être ses invités du royaume de Dieu, en ayant faim, en ayant soif de cette justice dont le monde est privé et que le monde ne peut pas donner parce qu'il ne l'a pas. Et il faut bien ajouter, et c'est important, que ce n'est pas l'Église qui est dans ses murs qui dispose de toutes ces richesses, de toute cette transformation et de toutes ces réserves de nouveautés. Ce que le Christ a donné, c'est jeté au milieu du monde, c'est jeté partout, c'est peut-être parfois piétiné, inconnu la plupart du temps, mais ce ne sera jamais une possession. Nous n'en détenons rien, les mains sont toujours ouvertes. Le royaume de Dieu, eh bien, il peut être dehors, là où on ne sait pas qu'il est. Il trouve sa source dans ce qui ne se prévoit pas, dans ce qui échappe au préétabli et donne une possibilité d'exister qui n'avait pas été encore envisagée jusque-là, selon les mots du professeur Élian Cuvillier. Ce que l'infinité des paraboles de Jésus veulent décrire, c'est cette vie qui excède, qui dépasse et fait exploser le cadre de tous les possibles. Elle peut ne pas dire son identité. Tel est le royaume de Dieu. Ce royaume au sujet duquel, un jour, Jésus a déclaré d'une façon étonnante, ce royaume de Dieu qui peut aussi appartenir aux violents, parce que eux, au moins, ils enforcent la porte pour y entrer. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 256, la première, la deuxième et la troisième strophe. C'est maintenant le moment de quelques annonces.
Bonjour à tous. Merci au pasteur Catherine Janin d'avoir présidé ce culte aujourd'hui et porté cette prédication. Vous pourrez, en consultant le site de l'oratoire, réécouter, réentendre cette prédication. Et bienvenue aux enfants qui ont été baptisés aujourd'hui, qui sont membres de l'Église, et bienvenue aussi à leurs familles et parents. Le prochain numéro de la Feuille Rose est en préparation. Vous le recevrez au début du mois de septembre. Nous vous sollicitons, parce que nous sommes assaillis de demandes de chambres pour des étudiants. Et nous avons de très très nombreuses demandes qui viennent à la fois de la faculté de théologie, à la fois de la fédération protestante et puis de paroissiens. Si vous avez des chambres ou si vous connaissez des personnes qui ont des chambres disponibles ou des studios, nous sommes très demandeurs car nous avons de nombreuses demandes et bien sûr ces étudiants pourront rendre quelques menus services en échange de l'occupation et d'un modeste loyer. Donc faites-vous connaître auprès du secrétariat si vous avez des possibilités de ce côté-là. Dimanche prochain, c'est le professeur Élian Cuvillier, qui est professeur à la faculté de théologie de Montpellier, qui viendra présider ce culte. À l'issue de ce culte, il y aura un pot d'accueil dans la sacristie. Vous y êtes tous, bien entendu, fraternellement conviés. Je voulais aussi vous donner une petite information quand même, parce qu'on ne goûte pas son plaisir. Le site de l'oratoire, vous le savez, a été complètement rénové. Et au cours du mois de juillet, nous avons eu la statistique qui nous a été donnée par Google. Nous avons eu plus de 40 000 visites et consultations de ce site pour le mois de juillet. C'est tout à fait remarquable. Et nous avons d'ailleurs un petit mot de félicitations de Google. Donc, je voulais vous dire que on ne boude pas notre plaisir. Nous sommes très heureux que ce site rencontre un très grand succès. Voilà, j'en ai terminé pour les annonces et c'est maintenant le temps de l'offrande. Les diacres de notre Église vont passer parmi vous.
Nous voulons maintenant nous unir dans l'intercession. Notre Dieu, notre Père, au moment où nous avons pu accueillir ces enfants au baptême qui sont des enfants aimés, choyés, nous voulons prier pour tous ces enfants du monde partout répandus, pour ceux qui souffrent de la méchanceté des humains, blessés par leur haine, tués dans des guerres. Pour ceux qui n'ont pas l'amour d'un père ou d'une mère qui les accueille. Pour ceux qui naissent infirmes. Pour qu'ils retrouvent une beauté que toi seul tu peux donner. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, pour qu'ils apprennent un jour que tu les aimes comme personne ne peut les aimer dans ce monde. Pour les enfants orphelins, pour qu'ils découvrent une nouvelle famille. Pour qu'ils apprennent ce que c'est que l'amour, pour découvrir le tien. Comme pour tous ceux aussi qui sont nés pour être heureux. Pour les uns comme pour les autres, nous te prions. Et avec cette prière que le Christ nous a appris, nous voulons te dire maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Louons Dieu le Père du Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, nous a donné une vie nouvelle et une espérance vivante. Et recevons la bénédiction de Dieu, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il tourne sa face vers nous, nous accorde sa grâce, porte sur nous un regard favorable et nous donne sa paix. Amen.
Oh Dieu. No.